Madame, monsieur, je vous souhaite une belle journée. Vous êtes à l'écoute de Radio Alliance Plus 103.2 FM, mais aussi vous nous écoutez à Nîmes en DAB+. Je suis le docteur Jacques Jaume. J'anime l'émission que vous écoutez et je la produis et qui se nomme Votre Santé, un trésor. J'ai la grande joie de recevoir le docteur Paul Samuth, qui est pharmacien et herboriste. Paul Samuth, j'ai bien connu votre grand-père et votre grand-mère, dont la principale pharmacie était voisine des Halles. Je m'y rendais souvent. Il a été, à mon écoute, lors de mon installation à Nîmes, votre mère est pharmacienne et herboriste, et vous êtes donc la troisième génération de pharmaciens herboristes à Nîmes. L'herboristerie me passionne car, en effet, je suis diplômé de la faculté de pharmacie de Montpellier en phytothérapie et plantes médicinales, et je l'ai pratiqué tout au long de ma carrière. Merci à vous d'être avec nous, et bonjour à vous, Paul Samuth.
Eh bien, bonjour, Jacques.
Voilà. Avant de parler de l'histoire de l'herboristerie, j'aimerais vous poser une question. Pourquoi l'herboristerie sur Internet, après avoir été titulaire d'une pharmacie en face de la Maison Carrée à Nîmes?
C'est une bonne question, hein. Beaucoup de gens me la posent.
Je ne pose que de bonnes questions.
Et voilà, et bien je vais essayer d'apporter une bonne réponse. Non, beaucoup de gens me posent en effet cette question. Et c'est vrai que bon, bah, la Maison Carrée, c'est quand même un symbole de Nîmes. Et c'est vrai que j'ai grandi à Nîmes. C'est vrai que, en fait, bah, au sein de cette pharmacie, j'ai développé l'herboristerie.
Et ouais. J'allais souvent à votre pharmacie parce que j'étais installé à côté.
On se voyait bien.
Et,
hein.
Et donc, je vous rencontrais et il y avait juste une herboristerie qui rejoignait la pharmacie et l'herboristerie.
C'est ça. Et en fait, je faisais souvent le yo-yo puisque je faisais pharma, herbo. Puis après, mes 30 km par jour à jongler entre les deux, bah, ouais. J'étais quand même de plus souvent à l'herboristerie. Et puis, un jour, j'ai eu une envie. En fait, j'ai toujours développé cette passion qui me vient, comme vous l'avez dit, de mon grand-père, ouais, hein, qui m'a ouais. enseigné les plantes. Et j'ai eu envie un jour de vraiment développer la marque.
Et alors, dites-nous comment votre grand-père vous a initié aux plantes.
Allez, je vais faire un petit souvenir d'enfant.
Oui, toujours.
Je me baladais avec lui. Ok, oui. Je me baladais et puis à un moment, tout comme petit enfant se balade avec son grand-père et qui fait des bêtises, bah, j'ai voulu monter quelque part et en fait je suis tombé et je me suis fait bobo.
Hein, oui.
Et voilà. Et au lieu qu'il fasse ta bobo là et qu'il fasse un bisou, en fait il y avait une plante à côté. Et c'était du plantain, mais moi je savais pas ce que c'était à l'époque. Et en fait il a pris cette plante et il l'a écrasée sur moi.
Oui.
Voilà, et j'avais plus mal. Alors, peut-être parce qu'il avait aussi un souffle magique qui m'a transmis, mais je me suis dit, mais en fait, c'est génial, avec les plantes, on peut tout soigner. Et il m'a dit oui.
Bon, mais c'est très bien. Donc, il vous a initié, vous avez continué dans cette démarche, et c'est très bien, parce que vous avez un site internet, on continuera avec un grand succès. Alors, niché depuis 1815 dans les petites rues du Vieux Marseille, l'herboristerie du père Blaise est une institution de la cité phocéenne. Il faut absolument aller la voir. La plus vieille officine de Lyon date de 1849. Se trouve au cœur du Vieux Lyon. L'herboristerie de Saint-Jean. Là aussi, il faut absolument aller la voir. Près de la cathédrale Saint-Jean. L'herboristerie du Palais Royal est considérée comme l'un des anciens magasins d'herboristerie en France. Est un lieu incontournable. Son histoire remonte au XVIIe siècle, lorsque le roi Louis XIII a créé un jardin royal pour cultiver les plantes médicinales et aromatiques à des fins thérapeutiques. Pour vous, existe-t-il une plus ancienne herboristerie en France ?
Plus ancienne herboristerie que celle que vous venez de citer, ça va être difficile.
J'ai recherché les plus anciennes.
Non,
j'en ai vu deux sur trois.
Vous avez nommé là.
Oui, c'est bon. L'herboriste est initialement défini comme celui qui connaît les simples. Les simples étant le nom donné aux plantes utilisées depuis l'Antiquité pour leurs vertus médicinales. Les plantes sont donc utilisées depuis la nuit des temps et accompagnent les hommes pour se nourrir, teindre leurs vêtements, peindre et se soigner. Mais quelle est l'histoire de l'herboristerie ?
Bien, en fait, au tout début, les médicaments, ils n'existaient pas. Et l'homme a toujours été en forme, mais aussi malade. Et en fait, l'homme a analysé un petit peu la nature. C'est-à-dire que quand vous regardez des animaux qui sont blessés, bah, les animaux, en fait, ils se soignent avec les plantes. Et c'est venu d'un constat au tout début, hein, faut remonter à très 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 longtemps. Et en fait, on s'est dit, tiens, mais puisque les animaux prennent ces plantes lorsqu'ils sont malades, peut-être que chez l'homme, quand on est malade, on peut aussi prendre les plantes. Et en fait, ça vient de là.
C'est par mimétisme par rapport aux animaux.
Par mimétisme, animaux. C'est
alors,
ça.
Il faut que je vous signale aussi que j'ai eu deux pharmacies extraordinaires à Florence. une dans qui est privée avec des peintures extraordinaires, et une à côté du Palais Vecchio, qui est la pharmacie de la Renaissance, où les peintres venaient chercher leur couleur à l'époque. En Europe, à partir du Moyen-Âge, trois corporations se différencient et sont souvent en lutte. Les herbiers, dénomination médiévale des herboristes, qui deviendront les herboristes, qui récoltent et vendent les plantes indigènes séchées. Les apothicaires, qui deviendront les pharmaciens au XIXe siècle, avec une école nationale et une centralisation de l'organisation métier. Ce sont alors les pharmaciens qui forment les herboristes, qui sont tolérés. Et les médecins, qui soignent souvent les personnes et les animaux aussi, il faut le savoir, et ont obtenu des monopoles sur le suif, par exemple des chandelles ou les poids et mesures. Existe-t-il une pratique occulte de l'utilisation des simples ?
Oui, il existe des pratiques traditionnelles et les occultes, mais ça, c'était pas les apothicaires, c'était pas les herboristes, c'était les sorcières.
Oui.
Voilà. Et puisque elles utilisaient des plantes qui étaient toxiques. Alors, on pense à la sorcière qui veut tuer les gens, mais en fait, il y avait des praticiennes qui, par exemple, voulaient faire lorsqu'une femme était enceinte et qu'elle n'avait pas le droit, ou que l'enfant provenait d'adultère, ou juste qu'elle n'était pas mariée, eh bien, il fallait qu'elle accouche, qu'elle se débarrasse en fait du fœtus. Et à l'époque, les sorcières, par exemple, elles utilisaient le ricin pour faire avorter les femmes. Et c'était totalement illégal.
Oui.
Et c'était également dangereux, puisqu'il y avait également beaucoup de mamans qui
décédaient avec ça. Et est-ce que l'alchimie utilise des simples, des herbes ?
Est-ce que l'alchimie utilise des...
À mon avis, oui.
Oui, je pense, oui.
Oui, parce que l'alchimie, on voit avec la médecine chinoise, pour ça je vous poserai une question, qui vient de la chimie romaine, et dans la médecine chinoise, il y a une pharmacopée énorme. Oui. Moi, j'ai vu une patiente, quand j'étais interne à l'hôpital, qui m'a dévoilé un secret. C'était un Tibétain, il avait une vésicule biliaire douce, séchée, qu'il émettait pour se soigner. Oui. Le métier d'herboriste a-t-il toujours eu sa place dans la société des hommes ?
De tout le temps, les hommes sont tombés malades et il fallait les soigner. Donc avant, c'est vrai qu'on utilisait beaucoup, beaucoup, beaucoup les plantes pour se soigner. Et puis en fait, donc oui, le métier d'herboriste a toujours existé. Puis après, avec l'arrivée de l'industrie pharmaceutique et des pharmacies, on a essayé de sectoriser tout ça parce que c'est quand même plus simple également d'avoir des dosages précis.
Oui, oui.
Par exemple, le ricin, si on l'utilise trop, c'est toxique, mais si on l'utilise à bon escient, ça peut servir également.
Très bien. Alors, nous recevons aujourd'hui le docteur Paul Samud, pharmacien et herboristerie, que vous pouvez retrouver sur son site, rappelez-nous.
herboristeriesamut.com.
Très bien, je vous propose une petite pause musicale en écoutant Danse des Gueux, musique médiévale de Frédéric Laurent. Thank you. Je vous rappelle que vous écoutez Votre Santé un Trésor sur Radio Alliance Plus 103.2 FM. Nous recevons aujourd'hui le docteur Paul Samut, pharmacien et herboriste. À partir de 1803, par la loi du 21 germinal en 11, l'exercice du métier d'herboriste fut assujetti à la réussite à un examen. Après avoir prouvé qu'il les connaissait exactement, l'herboriste était autorisé à vendre des plantes médicinales indigènes fraîches ou sèches au sein d'une boutique. À la fin de l'année 1870, les premières propositions de loi visant à supprimer le certificat apparurent. Jusqu'en 1916, il était théoriquement possible de passer l'examen sans n'avoir jamais été à l'école. Après 1916, un niveau équivalent au certificat d'études primaires exigeait des candidats. La moitié des postulants sont des enfants d'artisans, de petits commerçants, d'ouvriers, de journaliers. Ouvert aux femmes, le métier se féminisa fortement dans la seconde moitié du 19e siècle. Nombre d'entre elles, cumulaient la pratique de l'herboristerie avec l'activité de sage-femme. Ça, on ne le sait pas, mais c'est très très important. C'est la loi du 11 septembre 1941 relative à l'exercice de la pharmacie qui supprime le certificat d'herboriste et entraîne dans le même temps l'extinction de cette profession distincte de celle du pharmacien. La vente des plantes à usage thérapeutique se trouve de ce fait confiée aux pharmaciens dans le cadre du monopole pharmaceutique. Alors actuellement, qu'en est-il ?
Actuellement, c'est toujours le cas, c'est-à-dire que le métier, le diplôme d'herboriste n'existe plus depuis 1941, gouvernement Vichy. Et donc, il existe de plus en plus de formations maintenant d'herboristes, mais elles ne sont pas validantes, elles ne sont pas reconnues. Et effectivement, les plantes sont au monopole du pharmacien. Donc, c'est le pharmacien qui peut vendre toutes les plantes. Après, il y a des plantes, il y en a 148 précisément, qui sont sorties du monopole. Et donc, on va dire, herboriste entre guillemets, qui n'est pas donc pharmacien, peut vendre. Ce sont des plantes en général qui ont un double intérêt à la fois médicinal et gustatif, genre le thym, le romarin, l'artichaut. Des plantes oui, en fait qui sont comestibles, oui. Voilà, qui ont cette double dénomination. Et donc elles sont au nombre de 148. Mais attention, c'est pas parce que ces plantes sont sorties du monopole qu'elles sont dénuées de danger.
Oui, c'est ça. Oui.
Parce que souvent on se dit, bah, c'est juste une plante. Souvent j'entends, c'est juste une plante, donc il n'y a pas de danger. Ben, faux. Oui. Et puis, si en plus les gens disent, bon, bah, celle-là, c'est juste une plante qui en plus n'est plus dans le monopole pharmaceutique, donc il n'y a pas de danger. Ben non, doublement faux.
Rappelons la ciguë.
Oui, ça, on demandera à Socrate.
Le procès de Catherine Bickeling en 1820 témoigne des tensions existantes entre les herboristes et les pharmaciens. Contrairement à l'herboristerie, la profession de pharmacien resta interdite aux femmes jusqu'à la fin des années 1860. Les femmes ne pouvaient pas, jusqu'à cette date, être pharmaciennes. Et les premières pharmaciennes furent d'ailleurs socialement mal considérées, très mal considérées. Quelles sont les relations aujourd'hui entre herboristes, comme vous, qui ne faites que ça, et pharmaciens ?
Bah, ça passe bien. De toute façon, il vaut mieux être cordial hein, dans tous les métiers. Mais c'est important qu'il y ait des bonnes relations. Les pharmaciens ont compris que finalement, les plantes, c'est quand même la base du métier de pharmacien. Mm-hmm. Donc, il y a de plus en plus de pharmaciens qui reviennent justement à se former au niveau des plantes, qui me contactent même, et pour ne pas rester juste dans cette allopathie pure et dure. Oui. Il faut en fait un juste milieu.
De préparation. Et alors, actuellement, donc, personne ne peut s'installer comme herboriste.
Non.
Est-ce que vous pensez que dans un avenir, ça sera possible? Ou est-ce qu'il y a des demandes? Il y a des groupes qui essayent d'avoir des pressions?
Il y a des groupes qui apparaissent, des groupes d'herboristes qui essayent de revenir un petit peu à la charge. Mais c'est vrai que c'est... Disons que c'est bien d'avoir un background, parce qu'il faut quand même mettre quelques mots en anglais hein, de temps en temps.
Oui, mais traduisez.
C'est bien d'avoir quand même un bagage scientifique. C'est-à-dire que quand une personne vient vous parler d'une pathologie parce qu'elle veut se soigner, et même si elle veut se soigner par les plantes, il faut qu'on connaisse la patho, il faut qu'on connaisse les effets indésirables, il faut qu'on connaisse le traitement
aussi. C'est une démarche. Bon, je peux vous préciser qu'en tant que phytothérapeute, parce que j'étais phytothérapeute et j'ai beaucoup pratiqué, j'ai pratiqué du temps où la phytothérapie était remboursée. Donc, depuis que la phytothérapie n'est plus remboursée, évidemment, c'est une discipline qui est tombée un peu au niveau médical, j'entends. Hein. Mais les simples, comme on dit, ont des principes actifs. Et ces pratiques actives, par exemple la digitale, a une action cardiaque, donc c'est important. L'arnica, dont les fleurs, on peut être ramassé en Lozère et mis dans de l'alcool 90, qui peut faire de la teinture et qui est utilisée en Lozère pour les chocs et les traumatismes, ont un principe actif qui est actif. Et donc, tout ce qui est actif peut être dangereux. Donc, comme vous l'avez dit, il faut faire un diagnostic pour pouvoir bien répondre. En 2018, une mission d'information sur les métiers de l'herboristerie a été mise en place auprès du Sénat sans avoir eu de réelles conséquences sur la réhabilitation des métiers d'herboristerie. Peut-on penser, à votre avis, suite à ma question précédente, que les herboristes peuvent revenir ?
Ben, je pense que, de toute façon, il suffit d'ouvrir les yeux. Donc, il y a de plus en plus d'herboristerie qui ouvrent, mais ce sont des herboristeries sans pharmacien, enfin, qui ne sont pas rattachées à une pharmacie, et des fois qui sont sans pharmacien, et donc qui vont avoir uniquement les 148 plantes.
Oui.
Voilà.
Mais il y a une grosse demande des patients, mais il y a une grosse demande pour les plantes et pour
l'utilisation des plantes. Il y a de nouveau une demande, oui, les gens reviennent à des traitements naturels. Mais c'est pareil, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être à fond nature aussi.
Oui, on peut pas faire que ça.
Il faut un juste milieu.
Ah oui, il faut un juste milieu.
Et un juste équilibre.
Ce qui est évident, la phytothérapie, moi je l'ai vu en soins palliatifs, peut être complémentaire. Donc ça c'est très très important. Et utiliser la phytothérapie, des fois, pour être complémentaire, pour des constipations, pour autres, pour des symptômes qui peuvent avoir, où elle peut être efficace. Alors, je voulais vous poser une question pratique.
Oui.
Je suis chez moi et j'aimerais avoir... être soigné par des plantes.
Mm. Bon,
j'ai un signe, je regarde, j'estime que... Alors, par exemple, on m'a posé la question de l'insomnie.
Oui.
Ou prenons la constipation. Alors, je lui dis, j'ai une constipation, des produits pour la constipation, il faut beaucoup boire, tout. Je vais être soigné par des plantes. Comment la démarche de la personne, le patient qui est chez lui, qu'est-ce qu'il fait ? Comment il cherche ? Comment il vous retrouve ?
Comment il me retrouve ? Bah, tout simplement, on me considère comme l'herboriste 2.0, donc je peux être...
Mais comment on arrive à l'herboriste 2.0 ?
On ouvre juste son navigateur, Internet, on tape herboristerie Samut. Là, on va tomber sur mon site. Donc, sur mon site, j'ai essayé de faire les choses très simples. C'est-à-dire que soit la personne, elle tape constipation, et en fait, j'ai écrit un protocole pour la constipation, donc que je conseille. J'ai également une tisane, tout simplement, qui permet de soulager les symptômes de la constipation. Et si la personne elle a vraiment besoin de conseils, ou si elle veut se rassurer, ou si elle veut juste discuter avec moi, eh bien, il y a un onglet contact, et hop, ça m'envoie un mail.
Allez, vous répondez, vous discutez de mail à mail.
Ça envoie un mail, donc après, comme il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, il me faut juste le temps de répondre, mais sinon je réponds assez rapidement. Et ouais. Comme ça, la personne, elle a vraiment un conseil qui est adapté.
Vous êtes seul à travailler ?
Non, on est trois.
Trois ?
Mais c'est moi qui réponds aux questions des gens.
C'est vous le pharmacien, l'herboriste,
oui.
Et les deux autres personnes vous aident ?
Elles m'aident, oui.
Donc d'accord, alors pour ces tisanes, tout ça, pour préparer, vous préparez des gélules aussi ?
Non, les gélules...
Vous faites que des herbes, que des tisanes ?
On fait des tisanes et on fait aussi des concentrés. Donc en fait, vous aviez parlé tout à l'heure de la teinture mère.
Ouais.
Est-ce que les gens savent ce que c'est qu'une teinture mère ?
Ah ben expliquez-nous.
Alors, la teinture mère, c'est un extrait hydroalcoolique. On va prendre la plante fraîche, on va la couper et on va la mettre à macérer dans de l'alcool à 90 pendant 1 à 2 mois. Et après, on enlève les plantes, on filtre et ça nous donne une teinture mère. Mais comme vous l'avez deviné, c'est très riche en alcool.
Mmh.
C'est la teinture mère. Donc c'est pour ça qu'on va prendre que quelques gouttes diluées dans de l'eau et surtout on ne le prend pas cul sec parce que sinon c'est un peu fort.
Alors rappelons que pour l'homéopathie, c'est la teinture mère, la base, qui est dissoute. On en reparlera peut-être dans une autre émission.
Et donc du coup, moi j'utilise les teintures mères, mais j'utilise aussi les concentrés de plantes. C'est des extraits fluides glycérinés méliés.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on va évaporer une bonne partie de l'alcool qu'on va remplacer par de la glycérine et du miel.
D'accord.
Ce qui fait que le degré alcoolique, qui était donc très très fort, il va tomber à 14.
Mmh.
Donc c'est beaucoup plus léger.
Plus léger.
Et ce qui fait que certaines personnes peuvent le prendre pur, parce que ça picote un petit peu, mais au moins on peut le prendre pur, ou toujours le diluer dans de l'eau.
D'accord.
Et donc je fais aussi des mélanges de concentrés de plantes pour les personnes qui n'aiment pas les tisanes, ou pour les personnes qui veulent se soigner, ils ont ça dans
le
sac.
Les autres formes galéniques, c'est-à-dire les autres formes de médicaments comme les suppositoires, les onguents, les pommades, ça vous faites pas ?
Non, ça je fais pas.
D'accord. Et alors, moi quand je prescrivais des gélules.
Ouais.
Hein, c'est-à-dire que je faisais tant d'extrait sec. Alors, hein, et puis on faisait un mélange. Et les gens, les pharmaciens préparaient des gélules de 300 mg en principe. C'est la meilleure quantité. Hein, et on en donnait 6 par jour. En principe, c'est 6 par jour, de matin, de vers 14h, de 20h, parce qu'il faut que ça soit respecté. Alors ça, vous ne le faites pas.
Non.
Est-ce qu'il y a des médecins phytothérapeutes encore dans la région, à Nîmes ou...
C'est
une bonne question.
C'est vous le médecin, donc c'est vous qui connaissez.
Non, mais
un
moi
peu
je suis un vieux médecin. Moi, je suis plus dans la...
Alors, des médecins qui prescrivent directement des plantes.
C'est intéressant au niveau thérapeutique, c'est intéressant parce qu'il y avait des signes particuliers, des situations où on pouvait allier les deux, on pouvait combiner. C'était un plus thérapeutique.
En fait, il y a des médecins qui finalement se reforment par eux-mêmes. Hein, je connais j'ai des amis qui sont des jeunes médecins qui essayent de se reformer en plantes, mais...
C'est difficile.
C'est difficile.
Alors, moi, j'ai passé un diplôme universitaire à la faculté de pharmacie parce que ça m'intéressait. Je voulais être diplômé d'une autre faculté de médecine de Montpellier. Donc, j'ai été dans plusieurs facultés. J'ai fait une formation en troisième cycle d'un diplôme universitaire de pharmacie. Est-ce qu'il existe encore à la faculté de pharmacie des diplômes de phytothérapie à Montpellier ou à Lyon, à Marseille?
Oui, il y en a un très bon à Strasbourg.
Il faut aller à Strasbourg. Oui, Montpellier, celui de Montpellier existe.
Et Montpellier, si, il y a une formation. Alors, elle a changé de nom, mais on est sur. Ils ont regroupé un petit peu plantes et naturaux.
Ah, d'accord, ouais.
Donc, mais c'est bien aussi parce que.
Et les médecins peuvent se former parce que dans les diplômes universitaires, on peut. Est-ce que les vétérinaires utilisent beaucoup de phytothérapie?
Oui. Alors, pas tous, comme les médecins avec les humains. Mais oui, il y a des vétos avec qui je travaille. Qui soignent leurs...
Moi, je ne faisais pas que de la phytothérapie. J'utilisais la morphine, l'acupuncture et la phytothérapie. Mais la phytothérapie, surtout dans les traitements, par exemple l'acupuncturale, tout ça. Et alors, ce qui est très intéressant, mais je dois vous poser dans une autre émission une question, il y a toute la phytothérapie chinoise. C'est un peu particulier, parce que pour avoir des simples, c'est un marché un peu particulier. Vous en avez, vous?
J'ai quelques plantes... Alors, pas de la pharmacopée chinoise, mais de la pharmacopée indienne, donc l'Ayurveda.
Oui, mais il y a moins de médecins qui en font de la médecine ayurvédique.
C'est encore différent, mais on reste quand même sur des traitements par les simples.
Hein. Et alors, est-ce que vous avez des producteurs qui vous produisent des plantes de qualité? Parce qu'évidemment, j'ai visité des usines, justement, de médicaments phytothérapie, et il faut que les plantes soient saines, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elles poussent sur du cuir, du ceci, de cela, qu'elles aient des produits chimiques. Alors, est-ce que vous avez des producteurs qui font que ça et...
Oui, de toute façon, nous, toutes nos plantes, on veut qu'elles soient bio, et elles sont en plus analysées, donc on sait qu'il n'y a pas de pesticides, qu'il n'y a pas de métaux lourds.
Qu'elles sont vraiment naturelles.
Et
c'est des plantes écolo, quoi.
Ouais, et qu'il n'y a pas d'irradiation aussi, parce qu'il y a, y a des plantes qui sont irradiées. Et ça explique aussi la différence de prix, mais il y a des hélicrises qui ne sont pas chères, mais en même temps, elles ne sont pas ensoleillées, alors que si on prend les hélicrises d'Italie ou de Corse, là, on est sur des coteaux bien ensoleillés.
Est-ce que vous travaillez avec des médecins? Est-ce que des médecins vous ont contacté pour travailler avec vous?
Quelques-uns. Après, je travaille beaucoup avec... je travaille avec quelques vétos aussi. Et surtout beaucoup avec des naturaux, parce qu'on se complémentarise.
Et est-ce que les institutions médicales, comme les hôpitaux, les CHU ou certaines cliniques, vous contactent ou sont sensibles à cette démarche?
En fait, ça dépend, pas l'hôpital au sens propre, ça dépend toujours
des personnes.
De la personne. Mmh. Et ils y viennent un petit peu plus.
Ils y reviennent parce que... Et vous avez combien différentes plantes, différentes simples dans votre bibliothèque, qui n'est pas une bibliothèque, mais d'autres...
Je vais en avoir 250.
250, et vous pourriez en avoir maximum combien? Mais après, il faut les conserver.
Combien je pourrais en avoir? On pourrait monter à 300, mais après, 300.
Est-ce que vous avez des plantes qui viennent purement de l'étranger?
Le ginseng.
Oui.
Ça vient de Chine, hein, puisqu'on en parlait. Les ginseng, ils viennent de Chine. Quand je dis ginseng, il y a plusieurs types de ginseng. Hein. Il y a celui qui vient de Russie, il y a celui qui vient de Chine, il y a celui qui vient du Pérou.
Avec la Chine, tout ça, il n'y a pas de problème de relations, c'est bien.
Non.
Les normes sont pareilles qu'en France,
en fait,
qu'en Europe.
Elles arrivent en France et en France, elles sont analysées
pour qu'il n'y ait pas de problème.
Du coup, on sait que la bonne qualité.
Il nous reste à vous remercier, Dr Paul Samut, et à vous retrouver sur votre site internet Herboristerie du Dr Samut, ainsi que réfléchir ensemble à un sujet pour une nouvelle émission, Votre Santé un Trésor. Encore merci infiniment à vous.
Avec plaisir.
Mais avant de vous quitter, ma rubrique de fin d'émission des livres sur la santé aujourd'hui, des ouvrages bien évidemment sur la phytothérapie et l'herboristerie. Commençons par Physica, le livre des stupidités de créatures divines d'Eldemar de Bengen, traduit du latin par Pierre Monin, Milon Apotheca de 2019, L'art de guérir par l'alimentation selon Hildegard de Bingen-Vergam. Mon allemand est très mauvais, je le sais. Éditeur et l'œil, François-Xavier de Guibert en 2007. Apothicaire et herboriste entre science et tradition de Fabrice Le Standiteur, les éditions du Net de 2020. Un roman, car je suis romancier. La petite herboristerie de Montmartre de Donatella Risati, traduit par Elsa Tosi du 9 mai 2017. Je voudrais aussi en cette fin d'émission remercier Louis à la technique qui me supporte et Ombline pour ses compétences en ce qui concerne les visuels et la tenue de notre site internet. Merci à vous. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous remercie de votre attention et de l'écoute de votre santé, un trésor sur Radio Alliance plus 103.2 FM. À bientôt, je reste votre bien dévoué.
Restez avec nous sur Radio Alliance Plus.